Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray, le génie de l'hédonisme, 8e année, la fabulation freudienne Sigmund Freud. Aujourd'hui, une vie sous le signe d'Œdipe.
Bonsoir. Merci d'être là pour ce nouveau cours consacré à l'articulation des rapports entre la biographie de Freud et la production des concepts. Petit rappel, si vous voulez, pour que vous puissiez vous souvenir de ce que nous avons déjà examiné rapidement, parce qu'en fait, on aurait pu consacrer de longues heures à chacun des concepts pour voir comment ils pouvaient fonctionner dans la biographie, dans l'autobiographie, dans la correspondance et puis dans l'œuvre. On a eu l'occasion de voir comment Freud nous a dit qu'il avait perdu son père et qu'à l'occasion de cet événement, qu'il considérait comme le plus important dans la vie d'un être, il avait entamé son auto-analyse et qu'à partir de l'auto-analyse, une espèce de réflexion, d'introspection, qui se trouve présentée dans la géographie comme un travail considérable, héroïque, il faudrait reprendre tous les termes utilisés par Jones, par Peter Gay ou par d'autres biographes, on considère que c'est un travail considérable, qu'il y a mis tout son cœur, toute son âme, qu'il y a risqué son existence, qu'il est parti découvrir des continents tellement dangereux qu'il aurait pu y perdre l'essentiel de son être, nous a fait savoir que cette auto-analyse en relation avec la mort du père avait été à l'origine de la psychanalyse. On a eu l'occasion de voir également que Freud ne voulait pas être un philosophe, il voulait absolument être un scientifique parce qu'il nous dit que les philosophes, entre autres choses, n'ont jamais eu le souci de l'inconscient, que quand ils ont eu le souci de l'inconscient, ils considéraient que l'inconscient n'était jamais qu'une partie du conscient non conscient. Freud nous dit non, l'inconscient c'est autre chose, et ce sont les rêves qui y conduisent. Et il examine un certain nombre de ses souvenirs d'enfance, de ses rêves, et il y a un nombre considérable de rêves qui sont autant d'occasions pour lui de théoriser sa pratique onirique, en nous disant qu'il découvre là, dans l'auto-analyse, plus dans sa vie onirique, un certain nombre de vérités susceptibles de devenir universelles. Il met en perspective, souvenez-vous, ce souvenir d'enfance d'un père qui l'humilie parce qu'il utilise un seau hygiénique à mauvais effet ou à mauvais escient, et le père lui fait savoir qu'on ne fera rien d'un petit garçon comme celui-ci, d'un homme comme ça. Et on voit surgir, comme par hasard, la création du complexe de castration, de l'angoisse de castration, le père comme castrateur, systématiquement, et on verra ça en permanence dans l'œuvre, chaque fois que le père se trouve présent dans l'œuvre, c'est toujours un père castrateur. La mise en perspective également du roman familial et du demi-frère, je vous ai expliqué la dernière fois, j'ai tâché du moins d'être à peu près clair, sur l'arbre généalogique de Freud, en tâchant de vous expliquer qu'effectivement, une jeune mère, un vieux père qui avait déjà été marié deux fois, qui avait déjà eu des enfants et qui avait des enfants qui avaient l'âge de la propre mère de Sigmund Freud, pouvait produire une espèce de confusion identitaire auprès de Sigmund Freud. Et Freud met en perspective cette aventure individuelle, singulière, personnelle, subjective, avec le concept de roman familial. Il nous fait savoir que le roman familial, c'est une aventure qui concerne tout un chacun. Nous avons vu également comment cette fameuse théorie de l'enfant préféré devenait une vérité universelle sous sa propre plume. Il a été l'enfant préféré, on a eu l'occasion de le voir. Il nous dit également que quand son petit frère est arrivé, Julius, puis sa sœur Anna, il a ressenti un souhait de mort et une culpabilité, puisque le désir de voir ce petit frère apparaître et disparaître, a été suivi d'effet, puisque l'enfant meurt rapidement. Et Freud fait savoir, toujours dans sa correspondance, pas très précisément dans l'œuvre, mais enfin dans la correspondance, qu'effectivement il a eu le souhait de voir disparaître son petit frère et que ce souhait-là, se trouvant réalisé, finalement il en a ressenti une espèce de culpabilité, comme si son désir avait été réalisé. Les souvenirs écrans, également, se trouvent théorisés par Freud, qui nous dit que souvent on peut mettre en avant un certain nombre de souvenirs qui ne sont que des écrans pour cacher des souvenirs bien plus intéressants ou bien plus importants, c'est-à-dire que quand vous dites quelque chose, c'est pour mieux masquer ce que vous ne voulez pas dire ou ce que votre inconscient ne veut pas dire. On a également vu la dernière fois qu'il y avait une relation entre le caractère anal et la question de l'argent. Freud nous fait savoir effectivement que quand il va voir sa mère, qu'il l'appelle mon Sigy en or, il a des problèmes intestinaux, et ce toute son existence, et il met en perspective la mère, les problèmes intestinaux, l'argent, l'or, la richesse, la propriété, etc. Tout ça se trame évidemment dans une aventure autobiographique, une fois encore. Et puis je voudrais donc ajouter à cette liste-là le fameux complexe d'Œdipe. La mère de Freud disparaît le 30 août 1930 et il écrit une lettre à Ernest Jones, donc son futur biographe. Il écrit une lettre ce jour-là et il nous dit qu'il accède, avec la mort de sa mère, à une plus grande liberté. L'expression est assez singulière, une plus grande liberté parce qu'il avait peur de mourir avant elle. Ce qu'on peut comprendre, c'est-à-dire quand il avait une vieille mère, il avait un cancer lui-même, sachant donc que ça pouvait ne pas durer trop longtemps pour lui, cette vie, il pouvait effectivement craindre la disparition de sa mère, mais l'idée de se réjouir de la mort de sa mère parce qu'on n'aurait pas voulu mourir avec elle, avant elle, pour ne pas lui faire cette peine, ou ne pas lui affliger cette douleur de mourir, de partir avant elle, c'est une singulière proposition ou un singulier aveu. Et il nous dit également, et là je cite, il nous dit sa satisfaction qu'elle ait enfin trouvé la délivrance à laquelle elle avait droit après une si longue vie. Ce qui est aussi très singulier, puisqu'elle avait 95 ans, elle était en pleine forme, les témoignages nous font savoir qu'elle a gardé son humour jusqu'au bout, qu'elle était drôle, vivace, capable d'être cinglante, enfin qu'elle a été cette mère extrêmement présente et envahissante, et qu'il n'est pas question de parler de délivrance, sauf s'il s'agit d'une délivrance à l'endroit de Freud lui-même, qui se trouverait pour le coup délivré de quelque chose qu'il nous faudra voir. Et à l'évidence, on verra que l'inceste, le tropisme de l'inceste chez Freud est effectivement quelque chose qui le travaille, lui, en permanence, pendant la totalité de son existence. Donc la mort de la mère a à voir, effectivement, avec, d'une certaine manière, la résolution du complexe d'Œdipe, qui est une aventure particulière et singulière. Il y a bien sûr une vérité du complexe d'Œdipe, mais c'est une vérité freudienne. Sa mère meurt, il y a donc des obsèques, il n'y va pas, il n'assiste pas aux funérailles de sa mère, et il envoie sa fille, Anna. On aura l'occasion de revenir sur cette relation tout à fait singulière que Freud entretiendra avec sa fille cadette. Je vais vous parler tout à l'heure des souvenirs écrans qui donnent des souvenirs couverture dans la nouvelle traduction des éditions des presses universitaires de France. Et ce petit texte, des souvenirs couverture, est l'occasion pour Freud, justement, c'est assez singulier, il nous fait la théorie des souvenirs écrans et il nous propose en même temps des souvenirs écrans sans s'apercevoir que ce sont des souvenirs écrans. C'est assez drôle de voir quelle lucidité il peut avoir pour les autres et l'absence de lucidité qui peut être la sienne sur des faits qui sont pourtant extrêmement clairs. Il nous dit, dans ses souvenirs couvertures, il fait quelques confidences autobiographiques, il nous dit que son père a fait faillite dans le textile à Freiberg, en Moravie où ils étaient, et qu'ils se sont installés à Vienne en 1859, et que son père a fait faillite pour deux raisons. Il y a eu un krach d'abord, et puis ensuite il y a eu la construction d'un chemin de fer qui a épargné l'endroit, et donc effectivement la petite manufacture du père s'est effondrée. Or, il n'y a pas du tout de crise économique, les historiens en ont fait la démonstration, ça peut être extrêmement florissant d'ailleurs, le commerce du textile, à cette époque et dans cet endroit, et ceux qui ont enquêté sur le tracé du chemin de fer font la démonstration que là où passe le chemin de fer, c'est même plutôt fait pour faciliter le commerce du père de Freud. Comment donc Freud peut-il nous dire que son père a fait faillite à cause d'un krach économique dont il n'est pas responsable, à cause d'un tracé de chemin de fer qui aurait épargné la ville où il travaillait, alors que ce sont de fausses raisons. Ce sont des raisons qui ne peuvent pas être prises en considération sur le terrain historique. Sur le terrain psychopathologique, à l'évidence, oui, on peut effectivement comprendre que Freud a intérêt à penser ça et à proposer cette hypothèse. Le père était plutôt dilettante, plutôt coureur de filles, et vivait d'emprunt. La vérité, c'est plutôt ça. Freud ne le dira pas, évidemment, à aucun moment dans l'œuvre complète. Il ne nous parle de ce comportement du père. On sait simplement qu'il a eu un mariage, un deuxième mariage, un troisième mariage, des enfants, beaucoup d'enfants, et puis cette faillite. Donc on peut imaginer effectivement que le fameux idéal du moi, tel que Freud le proposera quelque temps plus tard, le théorisera quelque temps plus tard, n'est pas l'occasion pour Freud de briller. Cette théorie-là n'est pas l'occasion pour lui de briller sur un père comme celui-ci, la question de l'idéal du moi. Il nous dit donc qu'il quitte cet endroit où ils ont fait faillite, la famille, et qu'ils sont, qu'ils ont quitté Freiberg pour Leipzig, puis Vienne, et qu'une partie du voyage s'est donc effectuée en train. Et la légende nous dit que c'est à partir de l'auto-analyse que Freud a découvert l'Œdipe et la vérité de l'Œdipe, la vérité du fait que les garçons auraient le désir d'union sexuelle avec leur mère, le désir d'évincer le père qui serait pensé, conçu et vécu comme une espèce de gêne, de personnage dont il faudrait se débarrasser, réellement ou symboliquement, cette proposition-là, Freud nous dit qu'il y parvient par un travail d'auto-analyse. Si vous lisez la correspondance, vous verrez que les choses ne sont pas aussi claires que ça, parce que la formule telle que je vais vous la proposer, la formule n'est pas du tout équivoque, et Freud est dans une logique de pure hypothèse, et pas dans une logique de constat clinique. Je vous renvoie donc à cette lettre à Fliss, à l'ami Fliss, lettre du 3 octobre 1897, dans laquelle Freud nous dit qu'il a 2 ans et demi, il imagine qu'il a 2 ans et demi, on verra également qu'il se trompe sur le chiffre, mais il écrit ceci à Fliss. « Ma libido s'est éveillée envers Matrem, envers ma mère, puisqu'il a pour le coup, il parle en latin, dès qu'il y a un problème, certains perdent leur latin, mais lui, il le retrouve. « Ma libido s'est éveillée envers Matrem, et cela à l'occasion d'un voyage fait avec elle de Leipzig à Vienne, au cours duquel nous avons dû passer une nuit ensemble, et où il m'a certainement été donné de la voir nue d'âme. » À poil, hein, évidemment. Hein. Nue d'âme. Donc il a vu Matrem nue d'âme, nous dit-il. Mais si vous prenez le texte, vous apercevez qu'il nous dit « au cours duquel nous avons dû passer une nuit ensemble ». Bon, il y a une ambiguïté possible. « Nous avons dû » dans le genre « nous avons été obligés d'eux ». Mais nous avons dû, ça peut être aussi, il nous aura fallu, ou ça ne peut pas ne pas avoir eu lieu. Et puis vous avez donc une espèce d'ambiguïté levée dans le dernier morceau de la phrase où il dit où il m'a certainement été donné de l'avoir, nue d'âme. Donc quand vous lisez cette phrase-là, il vous dit que puisqu'ils ont voyagé en train, il n'a pas pu ne pas voir sa mère nue. Mais rien ne fait la démonstration qu'il l'aurait vue. Alors le latin c'est toujours singulier parce que dans l'œuvre il y a un petit article à écrire sur ce sujet-là. Chaque fois que Freud utilise le latin, c'est justement qu'il perd son latin, c'est que quelque chose a lieu et c'est assez singulier parce qu'on a une tradition à cette époque-là. Kraft Ebing écrit un très gros livre qui s'appelle Psychopathia sexualis, psychopathologie de la vie sexuelle, si vous voulez une traduction un peu librement adaptée, et un certain nombre de perversion sexuelle, mettons perversion entre guillemets, sont signalées, décrites par Kraft Ebing, et il utilise beaucoup, beaucoup de latin. Donc il y a un recours au latin à chaque fois que quelque chose d'important se joue chez Freud. Erreur de date, mais ça, bon, c'est assez récurrent chez lui, on peut aussi considérer qu'on a des problèmes avec le calcul, je sais de quoi je parle. Mais donc, il nous dit que c'est en 1858 ou 1859, en fait, c'est 1860. Il n'a pas 2 ans, 2 ans et demi, mais plutôt 3 ans, 3 quarts ou 4 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme les choses se sont passées, comme la correspondance nous le dit, Freud ne dit pas qu'il l'a vu, mais qu'il ne peut pas ne pas avoir vu. Que comme les choses se sont passées, eh bien, c'est-à-dire dans le train avec un voyage avec sa mère, le père et les frères étaient partis en amont, un peu plus tôt, il nous dit effectivement, il est dans la configuration particulière qui lui fait désirer le corps de sa mère, dont il pense qu'il l'aura vu nu à cette occasion-là. Donc on n'est pas du tout dans la déduction scientifique, on n'est pas du tout dans la lecture clinique, on n'est pas du tout dans l'observation du divan qui nous permettrait de dire qu'à partir d'une centaine de cas, Freud aurait pu découvrir qu'il y avait effectivement un complexe d'Œdipe, qu'il était universel et que chacun le ressentait comme ça pour l'avoir vécu et pour le vivre véritablement. Donc on est loin du registre scientifique, loin de Copernic et loin de Darwin, puisque, comme vous en souvenez, ce sont les modèles qu'il propose, puisqu'il nous dit qu'il s'inscrit dans ce grand lignage scientifique. La chose, elle est la suivante. Donc l'hypothèse que les choses auront dû se passer ainsi. Et je voudrais vous citer 4 phrases extraites d'individus extrêmement importants qui ont contribué à la légende et à la géographie. Et j'ai choisi ces phrases pour que vous puissiez voir comment on passe d'une hypothèse freudienne à une vérité scientifique. Ce que Freud fait, c'est-à-dire prendre ses désirs pour une réalité, devient une réalité sous la plume des biographes ou des hagiographes. En 1957, Ernest Jones, donc le grand biographe, celui dont j'ai déjà eu l'occasion de vous dire à plusieurs reprises qu'il était l'auteur de la biographie qui allait servir de matrice aux autres biographies, Jones écrit « C'est au cours du voyage qu'il fit entre Leipzig et Vienne que Freud eut l'occasion de voir sa mère nue. » Donc là, c'est pas « il aurait pu », là, il l'a vu, c'est clair. 1959, Anzieux, l'auto-analyse de Freud, il nous dit, citation, « Au cours du voyage de Leipzig à Vienne, Sigmund Freud aperçoit sa mère nue et ressent un fort émoi érotique qu'il retrouvera et analysera plus tard. » 1988, Peter Gay, Freud, une vie. Lui, c'est encore mieux, c'est-à-dire qu'il cite la lettre de Fliss dans laquelle on découvre que c'est une hypothèse, que c'est une probabilité qui relève de son désir, puisqu'il donne le texte même de la lettre de Fliss en nous disant que ça n'a pas pu ne pas avoir lieu ainsi. Et juste après avoir dit ça, après avoir cité la lettre de Fliss, il nous dit « lorsqu'il eut l'occasion d'entrevoir sa mère nue ». Donc, vous voyez, pour Jones, on voit, pour Anzieux, on aperçoit, pour Peter Gay, on entrevoit également. Et pour Gérard Hubert, le dernier biographe, c'est une biographie qui a quelques semaines, et qui avoisine les 1000 pages, hein, un livre qui s'appelle « Si c'était Freud, biographie psychanalytique », il écrit, Gérard Hubert, psychanalyste lui aussi, « On sait que Freud date de ce voyage, son expérience cruciale d'avoir vu sa mère nue et d'avoir ainsi ressenti l'éveil de sa libido qui se tournait vers elle. » Donc, la chose est clairement dite, Freud nous dit « Je n'ai pas pu ne pas ressentir ce genre d'émoi puisque j'ai probablement vu ma mère nue dans la configuration qui est celle du wagon et du voyage en solitaire avec sa propre mère ». Ça devient, dans l'histoire, une vérité. Freud a vu sa mère nue à partir du moment où il l'a vue. Effectivement, il y a une vérité de l'Édipe puisqu'il a ressenti un désir sexuel ou amoureux pour elle. Si nous croisons les lettres à Fliss, on en trouve une autre qui est datée du 15 octobre 1897, et vous verrez comment fonctionne la méthode de Freud, qui est une méthode dont je dis qu'elle relève du performatif, et je voudrais vous en faire la démonstration avec cette autre citation. Freud, donc, hein, toujours, vous voyez les guillemets, « Être vraiment honnête avec soi-même est un bon exercice. » On peut sourire un peu. Hein. « Il m'est venu une seule pensée ayant une valeur générale. » C'est important quand même. Il m'est venu une seule pensée ayant une valeur générale. Chez moi aussi, j'ai trouvé le sentiment amoureux pour la mère et la jalousie envers le père, et je les considère maintenant comme un événement général de la prime enfance. Alors évidemment, on a perdu, je vous ai dit comment les choses s'étaient passées, on a perdu les lettres que Fliss a envoyées à Freud. Freud a eu envie de détruire les preuves de tout ça, donc on n'a pas les lettres de Fliss à Freud, mais on a les lettres de Freud à Fliss, et de fait, quand il nous dit... Chez moi aussi, hein, j'ai trouvé le sentiment. On peut imaginer que dans une lettre, Fliss échange sur ce sujet en lui disant qu'il a lui aussi ressenti quelque chose comme ça ou vécu quelque chose comme ça. Ou ce sont une discussion entre deux amis qui nous disent effectivement que assez probablement l'un ou l'autre aura désiré sa mère. Et d'un seul coup, ça suffit pour faire une vérité générale. Et que cette réalité-là, elle est fondée scientifiquement. Il ajoute un petit peu plus loin, ouvrez les guillemets, « Chaque auditeur a été un jour en germe et en fantaisie cet Édipe, et devant un tel accomplissement en rêve, transporté ici dans la réalité, il recule d'épouvante avec tout le montant du refoulement qui sépare son état infantile de celui qui est le sien aujourd'hui. » Donc le délire commence. Il a cru voir sa mère nue, il dit qu'il a désiré sa mère, il fait savoir qu'il en va de même pour tout le monde, et puisqu'il en va de même pour tout le monde, il s'en vient même nous dire que pour tout un chacun qui a vécu les choses et n'a pas pu ne pas les vivre, eh bien, il y a de l'épouvante et du refoulement. De toute façon, la chose est claire, ou vous vous en souvenez, ça donne raison à Freud, ou vous ne vous en souvenez pas, ça donne encore plus raison à Freud, puisque vous avez refoulé l'information. On pourrait faire une parenthèse et parler d'une espèce de complexe de Saint-Paul, pour expliquer comment les choses fonctionnent. J'ouvre une parenthèse pour dire effectivement que Saint Paul a vécu une hystérie, on pourrait presque dire une hystérie de conversion si on veut faire de l'humour, mais une hystérie au cours de laquelle ce juif qui était persécuteur chrétien, puisqu'on lui doit avec d'autres le martyr de Saint-Étienne, c'est-à-dire le premier martyr chrétien, le premier homme à avoir été tué parce qu'il était chrétien, l'a été avec le concours de Paul, Saül à l'époque, et... Paul est quelqu'un qui assez probablement souffre d'impuissance sexuelle. Je vous renvoie aux actes des apôtres et aux épîtres de Paul, où il nous dit effectivement qu'il voudrait que tout le monde soit comme lui. Je souhaiterais que la sexualité se soit terminée pour vous, sous-entendu parce que c'est terminé pour moi. De sorte que quand vous avez une pathologie particulière, eh bien, il y a une bonne façon de vivre avec cette pathologie particulière, c'est de l'universaliser. Quand tout le monde est comme vous, vous êtes comme tout le monde. Et il me semble que dans cette perspective-là, on peut effectivement comprendre que Freud ait pu ressentir le complexe d'Œdipe pour lui-même, qu'il ait pu avoir le désir de découvrir sa mère nue, de voir sa mère nue, de coucher avec sa mère, pourquoi pas, tous les fantasmes sont dans la nature, disons-le ainsi. Mais de là à imaginer que tout le monde connaîtrait exactement la même chose, c'est assez singulier. Puis construire une œuvre sur cette hypothèse, qui est une hypothèse de départ, qui est un désir de petit garçon. Et on découvre de fait que le grand tropisme de Freud, c'est l'inceste. Son grand désir, c'est le désir incestueux. On peut chercher une hypothèse du côté de cette famille compliquée, à trois étages générationnels, dans lesquels, effectivement, pour le petit garçon, il est difficile de savoir qui est le père, qui est le grand-père, qui est le frère, qui est le demi-frère, qui est le beau-frère, qui couche avec qui a engrossé sa mère. On peut aussi imaginer effectivement qu'il y a une généalogie à voir ici, c'est une hypothèse. Je vous propose cette hypothèse, à vous de voir si elle fonctionne, mais je vais vous proposer quelques éléments pour une réponse qui irait dans ce sens, et vous verrez qu'avec avec sa femme, avec sa belle-sœur, avec Anna, il y a ce désir de mélanger les fils de la famille, et de fait on comprend que la tragédie de Sophocle puisse l'intéresser, comment Œdipe roi peut-être une tragédie qui l'intéressera. Cette passion incestueuse va lui faire écrire sa vie, donc son œuvre, parce que vous l'avez vu, il y a une relation extrêmement intime entre la biographie, la pensée, l'œuvre et la production des concepts, sous le signe d'Œdipe. Je vais vous donner quelques faits qui renvoient à la vie, à la biographie en tant que telle, et puis on aura l'occasion de voir ce que ça aura pu produire comme type de pensée, comme type de discours, comme type de théorie un petit peu plus loin. Il démarre sa vie amoureuse avec une étrange histoire. Il nous en fait la confidence dans une lettre. Voilà pourquoi il faut lire les correspondances. Une lettre à son copain qui s'appelle Silberstein, une lettre qui est datée du 4 septembre 1872. Il nous raconte une histoire tout à fait particulière. On se retrouve du côté de Freiberg, c'est-à-dire là où le père a fait faillite, et il y a là une autre famille qui se trouve également dans le textile, la famille Fluss, et c'est une famille florissante. Donc, c'est la démonstration que tous les gens qui sont dans le textile ne sont pas forcément des gens qui ferment l'usine, qui mettent la clé sous la porte, et que certains savent gérer leur entreprise. Et Freud, à cette époque-là, a 16 ans, et il est amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Gisela Fluss, qui a 13 ans, et qui est la jeune fille de cette famille à qui il ne déclare pas son amour, une espèce d'amour platonique. Et il nous dit que quand cette jeune fille est partie, il a erré dans la campagne, malheureux de n'avoir pas pu déclarer son amour à cette jeune fille, et surtout maudissant son père d'avoir été à l'occasion de ce déménagement. Je pense qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu cette faillite, il n'y aurait pas eu ce déménagement, s'il n'y avait pas eu ce déménagement, il n'aurait pas quitté cette Gisela, il aurait pu avoir une belle aventure, une grande histoire d'amour. Donc on voit que la faillite est à l'origine du déménagement, le déménagement est à l'origine du voyage en train, le voyage en train est à l'origine également de ce désir de voir sa mère nue dans le wagon. Dans cette lettre, il est jeune, Freud, il nous fait savoir qu'il aime la fille parce qu'il aime la mère, qui a l'âge de la sienne. Il fait un long panégyrique de cette femme. Il nous dit qu'elle est d'extraction bourgeoise, et ça lui plaît, elle a des bonnes manières, il dit qu'elle a une solide culture classique, que son jugement est correct en tout, qu'elle dirige l'entreprise avec son mari, et qu'elle fait ça de main de maître, et elle fait ça très bien, ça le ravit, et ça l'emballe. Freud, il dit que les ouvriers sont soumis à son autorité, qu'elle éduque vraiment très bien ses 7 enfants, qu'elle suit les progrès de sa progéniture, il ajoute en passant que ce n'est pas le cas de sa propre mère à lui, et qu'elle est toujours de bonne humeur, qu'elle a une généreuse hospitalité, etc. C'est effectivement une longue déclaration d'amour, un grand panégyrique que Freud fait à propos de cette femme à son ami Silberstein. Il raconte également qu'il a, sous le toit familial, puisqu'on l'héberge dans cette maison, une rage de dents. Alors, c'est assez singulier, parce que je vous dis toujours qu'il y a l'histoire de la paille et de la poutre, et que Freud voit très bien les choses quand il s'agit des autres, mais très mal quand il s'agit de lui. Et si on lui renvoyait l'interprétation du rêve, on pourrait lui dire qu'il a écrit « La dent et l'organe génital masculin sont mis dans une certaine relation ». Il tombe en léthargie, nous dit-il. Je vous renvoie à l'expression de Freud, l'expression dans la lettre. Freud tombe en léthargie parce qu'il a mal aux dents. Et plusieurs fois dans la nuit, la femme extraordinaire vient lui rendre visite. Il nous dit qu'un feu spirituel lui jaillissait des yeux. C'est quand même assez extraordinaire. Et donc, bon, vous avez voilà, une histoire qui pourrait paraître banale, classique. Il a 16 ans, il est amoureux d'une jeune fille de 13 ans, puis finalement, il nous dit que ce n'est pas de la jeune fille de 13 ans qu'il est amoureux, mais c'est de cette femme mûre. Donc, gardez bien précisément en tête cette information-là. On la retrouvera, ça va donner de la théorie, ça va donner du concept un petit peu plus tard dans Totem et Tabou. Première chose, vous parlez du tropisme incestueux de Freud. Vous voyez que ça démarre de bonne heure à l'adolescence. Deuxième exemple, avec sa belle-sœur. Quand il rencontre cette jeune fille qui deviendra sa femme, sa fiancée, donc Martha Bernays, il entre dans une grande période amoureuse qui va durer 4 ans. Ils vont très peu se voir, d'abord parce qu'il va passer un temps important à Paris, parce qu'il obtiendra une bourse et qu'il ira chez Charcot à la Salpêtrière pour étudier les cas cliniques et l'hypnose. Donc ils s'écrivent beaucoup, c'est une véritable aventure amoureuse sur le papier. On nous fait savoir qu'il y a 1000 lettres. Le personnage n'est pas à son avantage. Alors évidemment, toutes ces lettres-là ne sont pas toutes disponibles, elles sont coincées et interdites de publication, mais on découvre un certain nombre de choses. On découvre un Freud jaloux, extrêmement possessif, qui pique des crises et fait savoir qu'il a raison de piquer des crises. Il est tout seul à Paris, elle est en train de l'attendre, il n'est pas très sûr qu'elle se comporte bien, il se demande, il ne veut pas qu'elle rencontre des garçons, il ne veut pas qu'elle tutoie ses cousins, il ne veut pas que des individus qui seraient célibataires puissent la côtoyer. Il fait des grandes déclarations très misogynes, très phallocrates. Il a traduit quelque temps le Stuart Mill, qui est un très grand philosophe, un grand socialiste du 19e siècle. On a eu l'occasion d'en parler dans ce cours il y a 2 ans, je crois. Et ce très beau livre qui s'appelle « L'asservissement des femmes », qui est un vrai livre féministe d'une grande efficacité, d'une grande pertinence. Et Freud fait savoir que les bêtises féministes de Stuart Mill ne servent à rien, qu'une femme c'est fait pour faire la cuisine, la vaisselle, le ménage, c'est fait pour faire des enfants, que ça n'a pas à travailler, que ça n'a pas à avoir une indépendance ou une autonomie, et qu'il n'est pas question que les femmes soient indépendantes de leur mari. Il fait savoir à sa femme qu'elle n'est pas belle, jolie façon de draguer. Il lui fait des crises incroyables à distance en lui faisant savoir qu'elle n'a pas intérêt à lui être infidèle même de très loin. Et pendant ce temps-là, il lui dit que s'il voulait, il pourrait peut-être bien draguer la fille de Charcot, et que ça pourrait lui permettre d'avancer un peu plus vite dans sa carrière, mais qu'il ne le fera pas, bien sûr. Mais enfin bon, la chose est tout de même écrite. Eh bien, ils finissent par se marier. Ils font 8 enfants en 6 années. Et il écrit à Fliss, le 20 août 1893, il écrit à Fliss qu'il vit dans l'abstinence sexuelle. Ça, c'est la légende. Vous allez voir que la légende est nécessaire. Alors, on nous dit effectivement, Freud a eu une fiancée. Il a séduit sa fiancée, il a fait des enfants, il s'est marié, il est devenu un bon époux, bon père, l'affaire est réglée, la sexualité c'est terminé, ce que dit la légende, hein, c'est terminé, on va rentrer dans une logique de sublimation. C'est-à-dire que toute son énergie sexuelle, à Freud, va se trouver conduite sur la création de la psychanalyse, et c'est parce qu'il renoncera à la sexualité qu'il créera la psychanalyse. Voilà pourquoi, c'est une thèse freudienne, voilà pourquoi je vais vous parler des coucheries de Freud. Vous pouvez considérer que ce n'est pas très intéressant, mais moi ça me réjouit de pouvoir vous dire que ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Donc, la belle-sœur, au moment même où Freud interdit à sa femme de faire les yeux doux à un garçon, et même pas, c'est-à-dire de répondre à une parole qui pourrait lui être faite par un garçon, dans le même temps, Freud fait la cour à sa belle-sœur. C'est-à-dire qu'il écrit à sa femme, sa future femme, et en même temps, il écrit des lettres extrêmement enflammées à sa belle-sœur. Peter Gay, qui est donc un biographe, qui est lui aussi un hagiographe. C'est plus malin que Jones, les ficelles sont plus fines, mais ça reste un hagiographe complet. C'est quelqu'un qui effectivement défend le héros, le modèle, l'icône, la statue, et qui n'est pas soucieux d'histoire. Ce qui l'intéresse, c'est d'entretenir la légende. Eh bien, c'est Peter Gay lui-même qui parle des lettres passionnées écrite par Freud à Mina Bernays quand il était fiancé à sa sœur. Il écrit « Mon trésor » à sa belle-sœur. Et puis quelque chose de plus intéressant que j'ai trouvé, parce qu'il lui arrive de signer « Ton frère Sigmund ». Alors c'est un peu compliqué pour moi de dire « Mais alors il est en train de draguer sa belle-sœur et il signe « Ton frère Sigmund ». C'est-à-dire que s'il est le frère de Mina, il est aussi le frère de Martha, qui est sa femme. C'est-à-dire qu'il va faire des enfants à sa sœur. D'accord ou pas d'accord ? Je n'ai pas dit de bêtises, là. Apparemment, ça a l'air de marcher comme ça. Donc, c'est assez singulier que la confusion puisse être entretenue. On dirait que c'est du papier, c'est une lettre, c'est un petit mot, etc. Oui, d'accord, sauf que quand on a écrit « Psychopathologie de la vie quotidienne », eh bien, effectivement, on peut rencontrer des individus qui diront « Mais qu'est-ce que ça peut signifier, quand on est aussi sévère avec sa fiancée, d'écrire des lettres à la sœur de la fiancée, où on l'appelle mon trésor et on lui dit qu'on est son frère, en sachant très bien que tout ça est un petit peu compliqué, mais très simple en même temps. » Mina perd son fiancé, elle avait un fiancé qui était en même temps un ami de Freud, de la tuberculose, en 1886, et elle s'installera en 1896 chez Freud, et elle y vivra pendant 43 ans. C'est-à-dire qu'on ne lui connaîtra pas d'aventure amoureuse, on ne lui connaîtra pas d'autres hommes dans la vie que ce garçon mort de la tuberculose, si ce n'est Sigmund Freud. Alors évidemment, les hagiographes ne veulent surtout pas qu'on puisse parler de cette relation adultère, certes, c'est moins un problème qu'incestueuse que Freud entretenait avec sa propre belle-sœur. Il y a un plan de la maison de Freud. Ce sont des choses qu'on ne visite pas quand on s'en va au 19 Bergasse. Vous avez un plan de la maison de Freud qui est tout à fait singulier parce que vous avez un certain nombre de pièces, 17. Il y a 17 pièces en même temps, j'ai peut-être dû vous le dire, mais Paula Fichtel, qui est la femme de ménage de Freud, dort dans un lit qu'on déplie tous les soirs dans un couloir. Freud n'a pas trouvé moyen d'offrir à disposition de son personnel une chambre pour dormir. Et donc, Mina occupe une chambre qui est assez singulièrement placée dans cet appartement, puisque pour rentrer dans cette chambre, il faut passer par la chambre de Freud, par la chambre conjugale de Freud. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre entrée. Petite info que je vous donne comme ça. Mais si tout fait sens, ça fait un petit peu sens aussi, cette aventure. Il y a des historiens qui ont fait des vrais travaux d'historiens, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a cette légende, je vous ai dit tout à l'heure, la légende d'un Freud qui renonce à la sexualité pour pouvoir sublimer son énergie libidinale et créer de toutes pièces ce dispositif fabuleux qui s'appelle la psychanalyse. Vous avez des gens qui disent ben, peut-être, mais peut-être pas non plus. Et vous avez un certain nombre d'historiens, dont Frank Makiejewski, je dois cette référence-là, aux amis anti-freudiens que j'ai eu l'occasion de rencontrer par la suite et qui m'ont signalé le travail de cet individu qui, lui, est allé sur place voir comment ça s'était passé, qui a réservé les chambres d'hôtel dans lesquelles Freud se trouvait, à quelle époque, etc. Il a découvert que le 13 août 1898, Freud part en vacances avec Mina, donc sa belle-sœur, et non pas Martha, sa femme, et que sur le registre de l'hôtel, il est écrit « Docteur Sigmund Freud et Madame ». Et que Freud et sa belle-sœur ont réservé une chambre avec lit double pour 3 nuits. Donc l'abstinence sexuelle, faudra trouver autre chose pour justifier la sublimation et l'invention de la psychanalyse à partir de son seul génie. Ils ont voyagé 10 jours tous les deux, du 14 août 1898, et pendant ce temps-là, Martha garde les enfants. Sympathique, hein ? Et j'ai retrouvé dans une carte postale, voilà pourquoi il faut lire les correspondances, et la moindre carte postale est intéressante, une carte postale écrite par Freud, signée par Mina, et ils écrivent à Martha qui s'occupe des enfants à Vienne, « Nous avons une de ces mines tous les deux, dommage que vous ne puissiez nous voir. Nous sommes descendus dans un modeste établissement suisse, face à nous une forteresse hôtelière. » Alors c'est assez singulier de voir que ce n'est pas du tout un modeste établissement et que Freud ne descendait jamais dans des établissements modestes. Et comme les hagiographes d'aujourd'hui disent « oui, mais il n'y avait pas d'hôtel disponible, ils ont dû, etc. » Il n'y a pas d'hôtel disponible, sauf qu'ils avaient face à eux une forteresse hôtelière. La chose est clairement dite. Alors, évidemment, du vivant de Freud, la chose s'est trouvée dite. On a fait savoir effectivement que, assez probablement, Freud et sa belle-sœur entretenaient des relations intimes. Donc il a fallu que Ernest Jones fasse lui-même une mise au point dans la biographie. Il prend l'information et puis il en fait quelque chose. Je vais vous dire quoi très précisément. Il nous dit que Mina était intelligente, qu'elle était bonne brodeuse et qu'elle lisait, qu'elle jouait aux cartes, qu'elle créait des épigrammes et que tout ça réjouissait Freud. Effectivement, ce qu'il aime chez sa belle-sœur, ce sont les épigrammes. Et Jones dit, il lui arrivait quelquefois, alors de Freud, là. Il lui arrivait quelquefois de faire en sa compagnie de petites excursions lorsque Martha ne pouvait se déplacer. Tout cela donna naissance à quelques médisances parfaitement infondées et d'après lesquelles Mina aurait remplacé Martha dans l'affection de Freud. Donc, la géographie vous le dit, la légende est là, il y a eu des bruits, ce sont des bruits malveillants, il n'est pas question que Mina ait remplacé Martha dans l'affection de Freud. Il ne s'agit même pas du lit, hein, il s'agit de l'affection. Donc, moi, j'ai pris les biographies, j'ai croisé les informations et j'ai voulu voir ce qu'étaient ces petites excursions. Alors, voilà les petites excursions. Une semaine sur le lac de Garde, quatre cures à Bad Gadstein en Autriche, 17 jours à Rome, une villégiature dans les Alpes, 15 jours en août 1898 dans le Tyrol, une à Berchtesgaden en septembre 1900, Rome et Naples en août et septembre 1902, retour dans le Tyrol en août 1903, Athènes en août et septembre 1904, l'Italie du Nord en septembre 1905, Rome en septembre 1907, Tyrol Sud en septembre 1908 et ils y retournent en septembre 1913. Des petites excursions, en effet. Si vous prenez Peter Gay, l'un des récents biographes faisant autorité après Jones, il nous dit ceci, ouvrez les guillemets, « Durant l'été 1919, tandis que sa femme poursuit sa convalescence dans un sanatorium, Freud s'arrange pour passer un mois à Bad Gadstein, une de ses stations thermales préférées, en compagnie de sa belle-sœur Mina. Il est un peu embarrassé d'avoir choisi une villégiature si luxueuse, mais il se défend en alléguant le besoin de reprendre des forces en vue de la saison froide qu'il va leur falloir affronter. » Là aussi, légende, il n'y a pas de problème. Il se fait qu'on ne nous dit pas, il faut aller chercher ailleurs, mais enfin, Peter Gay ne nous dit pas pourquoi Martha est dans un sanatorium. Elle y est parce qu'elle se remet de la grippe espagnole, qui a tué à l'époque 15 000 personnes à Vienne et 30 millions de personnes en Europe. Donc, voilà les informations, voilà les faits, voilà la biographie. On ne serait pas allé chercher dans la vie privée de Freud si Freud lui-même n'avait mis en scène sa vie privée en nous disant que le renoncement à la sexualité, chez lui, avait généré par la mécanique de la sublimation, grand concept freudien essentiel, hein, toute l'esthétique du XXe siècle procède de la théorie de la sublimation, en nous faisant savoir qu'effectivement c'est la sublimation en relation avec le renoncement à sa propre sexualité qui aura généré la discipline qui est la psychanalyse. Donc, évidemment, toutes ces informations-là, elles sont à remettre en perspective avec le contenu de l'œuvre, avec la production des concepts. Ce que je vous propose donc, quitte la question de la vie privée, les informations, ça rendrait d'ailleurs Freud plutôt sympathique, cette aventure, ce genre d'informations, mais c'est plutôt le mensonge quant à la généalogie de la psychanalyse qui nous intéresse. La psychanalyse n'a pas pour généalogie une sublimation qui supposerait le renoncement à la sexualité de Freud. Elle a à voir, comme toutes les disciplines, avec l'histoire, avec l'inscription dans l'histoire, avec des lectures, avec des rencontres, avec des individus qu'on aura eus comme maîtres, des gens dont on aura été les disciples. Et voilà pourquoi, si vous ne faites pas de l'histoire, vous êtes obligé de vous contenter de la légende. Alors, ce que deviennent ces informations-là, dans ces informations biographiques dans l'œuvre. Elles sont nombreuses. Et là, je vais passer rapidement, parce qu'on aura l'occasion de revenir plus précisément sur tel ou tel point. Donc là, je reprends la question du complexe d'Édipe. Je vous disais donc que le tropisme édipien était majeur chez Freud et qu'il avait écrit sa vie, donc son œuvre, sous le signe édipien. Et de fait, on va voir ça en permanence dans le restant de l'œuvre. Par exemple, Totem et tabou. Freud nous fait savoir que le complexe d'Édipe, nous l'avons vécu, nous, individuellement, et que si nous ne l'avions d'ailleurs pas vécu, nos ancêtres l'ayant vécu, nous en serions porteurs. Car les inconscients héritent de manière phylogénétique, nous dit-il, c'est-à-dire les inconscients héritent de ce qui s'est passé il y a très 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 longtemps. C'est-à-dire qu'à l'origine de l'humanité, nous fait savoir Freud, eh bien, le complexe d'Édipe était déjà là, et nous avons hérité de ça. Il y avait une situation particulière qui était la domination du cheptel féminin par le père, par le mâle, qui était le chef de la horde primitive. Les enfants, les garçons de ce chef de la horde primitive se sont donc trouvés privés des femmes qui étaient la propriété du père. Que font les enfants ? Pour pouvoir accéder à ces femmes, ils tuent le père et ils consomment le corps de ce père-là dans un banquet cannibale qui suivra. Et puis, comme ils découvrent qu'effectivement, ils n'auraient peut-être pas dû faire une chose pareille, eh bien, ils se mettent à regretter une espèce de remords qui fait que vous avez là la généalogie de la loi morale. Je vous le redis, on reviendra là-dessus plus précisément dans le détail, mais Freud postule qu'à l'origine, vous avez donc une horde primitive, le chef de la horde primitive, le père, qu'il dispose de la totalité du cheptel féminin, que les enfants sont privés du fameux cheptel féminin et que pour accéder à la sexualité avec les femmes, il aura fallu tuer le père, se débarrasser du père. C'est donc le meurtre rituel du père qui est la généalogie de notre civilisation. Culture, civilisation, art, peinture, littérature, morale, etc. Enfin, je préciserai tout ça le temps venu. Mais voyez comment cette hypothèse de l'Édipe va générer chez Freud des choses considérables, puisqu'il en va, dans cette fiction du meurtre du père, et il en va de la totalité de l'explication de ce qui est, de ce qui a été et de ce qui sera. Autre hypothèse ou autre surgissement de la question édipienne dans la théorie de Freud, la question de l'athéisme. C'est quelque chose sur lequel Freud ne tergiversera jamais. Il est athée, juif mais athée. On entrera dans le détail aussi de cette question d'un judaïsme athée et de la possibilité pour le freudisme d'être une espèce de post-judaïsme judaïque. Mais ça aussi, ce sera plutôt vers la fin de l'année. Son athéisme est clair dans deux livres, « Malaise dans la civilisation » et « L'avenir d'une illusion ». Et il nous fait une analyse extrêmement claire de Dieu et de la nécessité de la mort de Dieu. Dieu, c'est le Père. Dieu, c'est un Père exalté, nous dit-il. C'est un Père qui sécurise. Il écrit « un Père exalté jusqu'au grandiose ». Donc, à l'évidence, cet homme qui est toujours dans l'obsession de coucher avec sa mère et de se débarrasser de son propre père, considère que Dieu, en tant qu'il est un Père exalté, en tant qu'il est le Père des Pères, en tant qu'il est le Père emblématique, en tant qu'il est la loi des lois, en tant qu'il est l'origine de la loi, eh bien, ce Père-là, il faut s'en débarrasser. Le meurtre du Père est nécessaire pour que nous puissions envisager d'être, ou la jouissance d'être, envisager la jouissance d'être, et peut-être jouissance d'accès à sa propre mère. Donc il y aura cette haine du Père en permanence qui fera de Freud un penseur athée radical. À l'évidence, il a beaucoup lu et bien lu Feuerbach, L'essence du christianisme et l'essence de la religion, qui sont deux très grands textes fondateurs de l'athéisme philosophique. Donc on ne trouve pas de thèse vraiment franchement nouvelle dans l'athéisme de Freud, si ce n'est que cette assimilation de Dieu au Père, elle est évidemment une assimilation qui nous permet de comprendre tout l'engagement de Freud du côté de l'athéisme. Un autre endroit où on voit également la puissance édipienne travailler le corps de Freud et donc la pensée de Freud, dans un petit texte qu'on ne lit pas beaucoup, qui s'appelle « Le président Wilson », qui est un ouvrage qui a été construit avec Bulit, qui est un individu qui lui donnait des informations plutôt biographiques. Et Freud est dans la détestation du personnage. Il nous le fait savoir dès le départ, dans l'ouverture dans la première page de ce livre. Il nous dit « La personne du président américain, telle qu'elle s'est élevée à l'horizon de l'Europe, m'a été, dès le début, antipathique. Et cette aversion a augmenté avec les années, au fur et à mesure que j'en savais davantage sur lui. » Et on se dit, mais comment peut-on démarrer une psychobiographie, puisqu'il y invite, une psychobiographie d'un personnage vivant, et en même temps être aussi violent, être aussi agressif, bien en tête, en disant qu'on a de l'antipathie pour le personnage dont on va s'occuper. Et vous avez quelques pages plus loin l'explication de cette antipathie. Il nous dit, parlant du président Wilson, président des États-Unis, citation, « Son père fut le grand personnage de son enfance, en comparaison duquel sa mère faisait piètre figure. » Donc c'est un anti-Freud, Wilson. C'est quelqu'un qui adore son père et peut-être moins sa mère. L'inverse de Freud, qui lui est dans la vénération de sa mère et dans la détestation de son propre père. On peut comprendre l'origine de cette fameuse antipathie. Alors on peut comprendre, on fait une psychobiographie de celui qui fait une psychobiographie et on découvre la psychopathologie de quelqu'un qui veut voir à l'œuvre la psychopathologie d'autrui. Mais de fait, on conçoit que cette pensée-là ne puisse pas se prévaloir de l'universel. On voit bien combien la charge autobiographique est majeure chez Freud et comment, à chaque fois qu'il nous dit qu'il est dans l'universel, dans la science, dans la scientificité, comment il analyse le président Wilson sur le mode de l'objectivité scientifique, de l'objectivité psychanalytique, eh bien, en fait, il est toujours travaillé par ses propres pulsions, par ses propres obsessions. On retrouvera également, je vous le redis, on entrera dans le détail de ces choses-là, mais le même problème avec la question juive, qui est une question extrêmement importante dans la pensée de Freud, et pas centrale, mais il y a plein de choses qui sont susceptibles d'être rapportées à deux ou trois petites idées extrêmement fortes de Freud, notamment une préface à l'édition, à la traduction hébreu de Totem et Tabou, chose qu'on ne lit vraiment jamais, mais quand vous lisez cette petite page, on découvrira des choses, vous verrez qui sont extrêmement importantes pour comprendre le rapport de Freud à sa judéité, mais surtout ce livre qui s'appelle « L'homme Moïse et le monothéisme », un livre étonnant puisque pensé sous le nazisme, c'est-à-dire quand les juifs sont quand même plutôt maltraités, et ce, dans l'Europe entière, eh bien, Freud s'attaque à Moïse, le père des juifs, pour faire savoir que Moïse est un égyptien, et qu'à l'origine de la civilisation juive, il n'y a qu'une civilisation égyptienne, que la circoncision est une affaire égyptienne, que, enfin, j'entrerai dans les détails pour ces choses-là, mais là encore, il s'agit de tuer le père, meurtre du père. Le père des juifs, c'est Moïse. Il faut dire de Moïse qu'il n'est pas juif, mais qu'il est une espèce d'égyptien qui va créer le peuple juif. On aura l'occasion de détailler tout ça. Et puis, je vous parlais de la passion que Freud, que le jeune Freud de 16 ans avait pour Gisela. Et je vous disais qu'on retrouverait ce genre d'obsession personnelle, individuelle dans l'œuvre complète et dans la théorie, dans le discours. Cette fois-ci, d'où l'intérêt de, évidemment, de mettre en perspective les biographies et les œuvres, eh bien, cet amour de la belle-mère, souvenez-vous de la lettre à Silberstein, eh bien, on en voit des effets dans deux textes. Un qui s'appelle « Du rabaissement généralisé de la vie amoureuse », contribution à la psychologie de la vie amoureuse, où Freud nous fait savoir que le premier objet amoureux est la mère, la sœur, il y a un certain nombre, ou la sœur, un certain nombre de considérations sur ce sujet, mais plus précisément, « Totem et tabou », un ouvrage majeur, vous verrez, un ouvrage dans lequel on peut lire ceci, et là, pour le coup, on n'est pas théoriquement dans l'autobiographie, on n'est pas théoriquement dans la biographie, on n'est pas théoriquement dans le discours personnel, on n'est pas dans la confidence à l'endroit de son amour d'enfance, mais dans la doctrine pure et universelle. Freud nous dit, ouvrez les guillemets, « La belle-mère constitue de fait, pour le gendre, une tentation d'inceste, comme par ailleurs, il arrive assez souvent qu'un homme tombe manifestement d'abord amoureux de sa future belle-mère avant que son inclination ne se porte sur la fille de celle-ci. » Voilà comment vous pouvez démarrer avec ce sentiment autobiographique et comment ça peut produire du concept un petit peu plus tard dans un ouvrage comme « Totem et tabou » où on ne vous fait pas savoir que cette pensée-là, c'est une espèce de souvenir, une espèce d'écho de sa propre adolescence, mais on fait savoir que toutes ces choses-là sont dites dans des récits ethnologiques, puisque Totem et tabou s'appuie sur une grosse bibliothèque d'ethnologie. Il a beaucoup lu et il nous fait savoir qu'ici, là, ailleurs, dans telle tribu, dans tel endroit, etc., on a des rites de conjuration qui font savoir que si on ne parle pas à la belle-mère, si on ne la regarde pas, si on est dans un endroit où il est interdit, il est tabou de lui parler, de la regarder, de lui adresser la parole, etc., c'est parce qu'il y a à l'origine cet amour incestueux du garçon pour la mère de la jeune fille qu'il convoite. Il nous dit un petit peu plus loin, Freud, dans ce même livre, Totem et tabou, que ce qui se joue dans cette aventure, c'est, ouvrez les guillemets, le facteur incestueux du rapport. C'est-à-dire que le mot même, l'expression même, est clairement dite ici, quand je vous dis que l'inceste est le grand problème de Freud, donc avec sa mère, avec sa fille Anna, on aura l'occasion de développer, avec Mathilde, on aura aussi l'occasion de développer, puisqu'il nous dit qu'il a des rêves incestueux à l'endroit de sa fille, ce qui lui permettra de théoriser ce qu'on appelle la séduction chez Freud. Et on verra ensuite comment il psychanalyse sa propre fille, il psychanalyse la maîtresse de sa propre fille, il psychanalyse les enfants de la maîtresse de sa propre fille, et comment l'un des enfants de la maîtresse de sa fille, vous suivez, j'espère, se suicidera dans le lit d'Anna Freud, fille de son père. Donc vous verrez que c'est le tissage de cette logique édipienne, il est d'abord autobiographique et qu'il est assez peu théorique. On y trouve des confidences autobiographiques dans les petits textes dont je venais vous parler, et on en trouve aussi concernant le mariage, la monogamie, la fidélité, la sexualité ou la procréation. Dans un petit texte qui s'appelle « La morale sexuelle culturelle », culturelle entre guillemets, « La morale sexuelle culturelle et la nervosité moderne », 1908, on trouve des thèses qui sont classiques, elles sont chez Schopenhauer. Vous savez qu'il était un grand lecteur de Schopenhauer et que le petit texte qui s'appelle « Métaphysique de l'amour » et qui est extrait du monde comme volonté et comme représentation donne un certain nombre d'informations qu'on retrouve sous la plume de Freud. Il nous dit à propos du mariage, « Il n'y a dans le mariage que quelques années de commerce sexuel satisfaisant, naturellement. » C'est pas moi, naturellement, hein, je lis. Hein. « Déduction étant encore faite de périodes nécessaires pour que la femme soit ménagée pour des raisons d'hygiène. Après ces 3, 4 ou 5 années, le mariage ne fonctionne plus dans la mesure où il a promis la satisfaction de besoins sexuels. » Donc, on voit bien qu'on est dans l'autobiographie, mais que c'est peut-être aussi de la sociologie toute simple. Il a rencontré Martha, il lui a fait des enfants, il a renoncé à la sexualité avec elle, il a une sexualité de substitution avec sa belle-sœur, et on conçoit bien qu'effectivement, et c'est une théorie qu'on retrouvera un petit peu plus tard sous la plume de Freud, l'affection de la femme pour son mari se déplace sur les enfants, fait savoir Freud, et le mariage est l'occasion pour les maris de se retrouver tout seuls avec leurs mains, si vous voyez ce que je veux dire, ou avec des femmes dont c'est le métier. Et il nous dit que pour les femmes, c'est compliqué, parce qu'on associe la plupart du temps sexualité et procréation. Donc il y a une brièveté de la relation sexuelle conjugale qui est évidente. Et très vite, les femmes renoncent à la sexualité, et les hommes peut-être aussi, dans cette aventure, ils n'en donnent pas les détails, mais parce qu'elles vont se polariser sur l'enfant, qui va devenir l'objet de substitution de leur amour. C'est-à-dire que, se détournant de leur mari, de leurs époux, les mères investissent sur leurs propres enfants. Il y a donc, d'un point de vue libidinal, il y a donc un mensonge généralisé, nous dit Freud, sur cette question de la sexualité. On ne nous dit pas tout, comme dit l'autre. Et donc, il y a à voir avec cette aventure-là d'un mensonge généralisé. Tout le monde cache tout le monde à tout le monde, et chacun vit à peu près la même vie que tout le monde. Pourtant, Freud nous fait savoir qu'il y a des névroses, des perversions, de l'homosexualité, de l'onanisme aussi, et que c'est la misère de la sexualité qui est à constater dans cette aventure. C'est un petit texte rare, très peu lu, qu'il faut lire dans l'œuvre complète. Il n'y a jamais eu d'édition séparée de ce petit texte-là. Et si vous le pensez théoriquement déconnecté de la biographie de Freud, il pourrait donner l'impression d'être un texte assez critique sur la sexualité judéo-chrétienne, sur l'idéal ascétique, et on pourrait se dire, tiens, après tout, une espèce de Freud révolutionnaire dans cette aventure, pourquoi pas. Il nous dit que la sexualité dans notre monde moderne, elle est la plupart du temps bâclée, détruite, interdite, que les hommes s'en trouvent châtrés. Il nous dit que pourtant, les femmes aiment les hommes, alors citation, qui se sont avérés être des hommes auprès des autres femmes. Il décrit le devenir libidinal des femmes après le mariage. Il nous dit que cette assèse sexuelle, elle abîme les femmes, bien sûr, qui se trouvent renvoyées du côté de leurs parents, qui font des fixations sur le couple parental. Elles deviennent frigides, nous dit-il, pratiquent l'onanisme, donc elles génèrent la totalité des psychonévroses des hommes et des femmes. Il ne va pas proposer quelque chose de très révolutionnaire dans cette aventure. Et vous verrez que là encore, il y a une espèce d'écho à la biographie dans ce petit texte, dans cette petite phrase que j'extrais de ce petit texte. Il nous dit « Le remède contre la nervosité découlant du mariage serait bien plutôt l'infidélité conjugale. Or, plus une femme a été éduquée dans la rigueur, plus elle s'est soumise sérieusement à l'exigence de la culture, plus elle redoute cette issue. Et dans le conflit entre ses désirs et son sentiment du devoir, elle cherche encore refuge dans la névrose. » Donc on conclura sur ce sujet pour cette fois-ci. Critique du mariage, critique de la procréation, critique de la monogamie. On se dit qu'il y a une espèce de souffle nietzschéen dans cette aventure, dans ce petit texte qui renvoie à l'espèce de misère sexuelle qui a pu être celle de Freud. Et on se dit, alors quoi ? Il propose quoi, Freud ? Eh bien, il nous dit, non pas qu'il faut libérer la sexualité, il nous dit que ça, c'est absolument impossible, qu'on consacrera en fin d'année un cours sur cette question de la critique de la libération sexuelle. Il y a un malentendu sur Freud-libération sexuelle, parce que la libération sexuelle, elle se fait avec les freudo-marxistes, Reich et Marcuse, mais pas avec Freud, qui, lui, est tout à fait opposé à la libération sexuelle. Et il nous dit qu'on ferait un très grand pas avec la contraception. Alors ça peut paraître un peu court, on sait aujourd'hui que ça a été une révolution que de rendre possible la contraception quand cette loi a été votée par Neuwirth. C'était une révolution, on n'a pas mesuré combien ça pouvait être une révolution, mais Freud n'ira pas au-delà de cette révolution, proposer dans la correspondance, il ne faut pas omettre de le dire, c'est dans la correspondance à Fliss que Freud fait savoir que le remède à tout ça, ce serait de trouver un bon moyen contraceptif qui dispenserait d'un certain nombre de névroses. Mais il n'ira jamais plus loin sur ce terrain-là. Pas question de libérer la sexualité. Ce qui obsède Freud n'est pas tant la possibilité d'une sexualité épanouie entre les hommes et les femmes, mais, comme vous l'aurez compris, la possibilité pour lui de vivre de manière allégorique, symbolique, métaphorique, une sexualité avec sa propre mère, qui a été la seule sexualité qui l'ait conduite durant toute son existence. Voilà. Merci pour aujourd'hui. Alors, j'avais rapporté de Vienne, où j'étais allé au 19 Bergasse, voir la maison de Freud, ce texte qui fonctionnait comme un catalogue. Je ne sais pas s'il est encore disponible, pas sûr, mais ça a été publié au Seuil pour l'édition française, et ça s'appelle « La maison de Freud ». Ce sont des photographies d'Edmund Engelmann, Bergasse 19, Vienne, c'est le titre. C'était peu de temps avant l'exil, et donc le photographe a souhaité photographier la maison dans l'état pour faire œuvre d'archives. Donc c'est intéressant de voir le divan, de voir les pièces d'art égyptien, d'art antique. C'est intéressant de voir les gravures de Charcot, etc. Enfin, c'est toujours très émouvant de voir la façon d'habiter ce volume. Sur la biographie dont je vous ai dit qu'elle était souvent une hagiographie, celle de Peter Gay, il n'y a pas de biographie critique, il faut le dire clairement, dans laquelle on ferait la part de la légende et la part de la vérité historique, dans laquelle on expliquerait les mensonges, les affabulations, les approximations, les destructions de preuves ou ce genre de choses. Les fameuses correspondances de voyage, qui sont expurgées en plus, hein, mais les correspondances de voyage ont été publiées sous le titre « Notre cœur tend vers le sud », c'est une citation, avec une préface d'Elisabeth Roudinesco chez Fayard, qui est Elisabeth Roudinesco et la garantie de la géographie française. Les textes dont je vous ai parlé, je ne les ai plus exactement en tête, mais qui se retrouvent dans l'œuvre complète. C'est dommage parce que je pense que c'est bien de pouvoir lire des petits textes comme « La morale sexuelle culturelle et la nervosité moderne ». Ce petit texte est vraiment très très intéressant. Et le roman familial des névrosés, dont j'ai eu l'occasion également de vous parler, qui se trouve dans cette édition au volume 8 de l'œuvre complète. La fameuse lettre à Silberstein, dans laquelle Freud fait savoir à son copain de jeunesse, lettre de jeunesse, donc Sigmund Freud, aux éditions Gallimard, dans laquelle Freud nous fait savoir qu'il est amoureux de la jeune fille parce que c'est de sa propre mère qu'il est amoureux. Voilà pour la biblio.
C'était les conférences de l'Université populaire de Michel Onfray, régisseur au Centre dramatique national de Normandie, Joël Migne. Prise de son, Benoît Cousin, France Bleu Basse Normandie. Mixage, Jean-Michel Coqui. Réalisation, Véronique Villa. Demain, un mythe scientifique.